de l'autre côté de Pont de Velle. L'usufruit de la propriété de Saint-Jean lui échoit aussi et la charge de veiller sur son frère. François va aux activités de la seigneurie, robuste fief à maison forte, au-dessus de laquelle il est écrit « Espoir en Dieu seul ». Gentilhomme campagnard, il collabore avec les grangiers de Sauzet, les meuniers de la Velle et les pasteurs de Mâcon, de Saint-Cyr-sur-Menton, de Pont-de-Velle. Tout protestant qu'il soit, il est anobli en 1671. Il a vu en 1663 l'interdiction du culte réformé à Pont-de-Velle, qui a jeté la moitié du bourg dans l'illégalité, et le débordement de la Velle en 1664, cause de nombreuses noyades et de plus de morts encore que la foudre. La peste passe tous les 3-4 ans, et la famine, la taille, la dîme et la gabelle rôdent. Dans ces années-là aussi, la région s'horrifie de compter un assassinat par an. Prise à la maison de Savoie en 1601 par Henri IV, ce grand Henri, la Bresse, sous Louis XIV, est tiraillée et les persécutions encore silencieuses s'intensifient. Quand les ritualistes couvrent de bruits domestiques les prêches calvinistes, leurs adversaires faufilent leur vengeance dans les fentes des chapelles et urinent par là en plein office catholique. Leurs cimetières confisqués, les cadavres des protestants dorment souvent leur sommeil éternel parmi la boue et les charognes des bêtes. En 1685, on entend chanter de par la Bresse « Que ferez vos pauvres huguenots, non vous les tartou bampano, sans ministre et sans église, oh ben, et ben tous en chemise, vous m'entendez ben, vous m'entendez ben. Si vous ne vous convertis pas, on vous accablera des mots, des sedars et de taille au bain, adieu pauvre canaille, vous m'entendez ben, vous m'entendez ben. » L'édit de Fontainebleau révoque celui de Nantes, la chasse à l'homme s'emballe, et le XVIIe siècle achève d'être celui des deuils innombrables et de la plus brève espérance de vie. Un chrétien sur cette terre n'est jamais vivant, dit Bossuet. Mais l'heure est aux querelles séculières, et Bossuet lui-même sacrifie aux traîtres, aux égarés, aux ennemis, délaissant les profondeurs des discours funèbres pour gratter le long papier des chicanes théologiques. L'un est François, protestant, Bressan. L'autre, Jacques Bénigne, catholique, bourguignon. La chrétienté a beau les couvrir d'un même habit noir, couleur mortifiante qui sied le mieux au corps humain, papiste ou huguenot, il faut beaucoup d'ironie, de détresse ou de dragonnade pour passer d'un camp à l'autre, d'une identité à l'autre. Une princesse palatine dira plus tard, lorsque l'heure de la mort a sonné pour quelqu'un, tous ceux qui l'entourent sont frappés d'aveuglement et le mènent à sa perte. Peut-être en va-t-il ainsi, au premier tintement de cloche funeste de la fin du grand siècle, quand une moitié de la France a raison de l'autre. Autour de la Velle, on détruit les derniers temples, on menace les derniers pasteurs. Malgré l'interdiction de quitter la France, les protestants de Bresse s'enfuient massivement en 1687 et 1688 vers la Suisse ou la Prusse. François Legat doit s'y résoudre lui aussi, après avoir enduré 4 années sans liberté. Il laisse son domaine en fermage à son beau-frère et gagne la Hollande le 6 août 1689. On ne lui sait pas d'épouse ni d'enfant. Sa vie jusqu'ici pourrait se résumer à son travail et à sa foi, à la Bresse et au Bressan. Il part seul parmi les derniers. On l'imagine sans affaires, que de l'amertume, sans projet, que l'énergie de la marche, le réflexe de l'errance. S'il prête assez l'oreille pour entendre la séduisante musique des mœurs dégagées et des autres vies possibles qu'il attire à Amsterdam, il s'y rend par défaut. Quoi qu'il en soit, où qu'il aille, il a tout perdu. C'est en Hollande, dès lors, qu'il y a trop de protestants. On en envoie dans les îles à diverses fins économiques ou philosophiques, impérialistes ou utopiques. L'Éden pourrait constituer un marché d'avenir.